Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
La presse malienne est-elle libre ou pas? Quelle explication à la situation sécuritaire dans la région de Ménaka et les élections pourront-elles se tenir dans ces conditions? Le point avec trois journalistes invités dans ce forum de la presse. Il s'agit de Makan Kone du journal La Nouvelle Libération, Badou Escoba du journal Le Carrefour et Moustaphe Maïga du journal Les Ségoviens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce forum de la presse.
Le Grand Dialogue.
Parlons d'abord de la liberté de la presse. Makan Kone, la presse malienne est-elle libre?
Merci déjà. Je dirais relativement libre, même s'il y a des reproches à faire, il y a des arrangements qui peuvent être...
Que voulez-vous dire par relativement libre?
Relativement libre parce qu'on ne dirait pas que, comparé au Burkina, par exemple, comparé à notre parcours démocratique, quand on tient compte du rôle que la presse a joué par rapport à l'avènement de la démocratie au Mali, et le rôle de pionnier qu'il était il y a une dizaine, vingtaine d'années, je veux dire, à l'arrivée des démocraties au début des années 90, quand on compare la presse malienne aujourd'hui à celle du Burkina, du Sénégal et tout, on ne dirait pas qu'elle occupe la place qui devait être la sienne normalement.
Donc de 1960 à aujourd'hui, il y a eu une régression selon vous?
De 90 à aujourd'hui, disons déjà, je dirais de 2000 à aujourd'hui, il y a eu une très grande régression de la presse malienne.
D'accord, donc différent de l'indépendance, oui. L'avènement de la démocratie.
Absolument.
Badou Escoba, aujourd'hui, la presse est-elle libre?
Bon, je dirais que la presse est partiellement libre. Parce que si nous tenons compte des événements qui se sont passés récemment, telles que l'agression contre les journalistes de la radio Clé de Douba Dambélé et l'agression contre Alima Bentouré, je peux dire qu'il y a des problèmes. Il y a une autre tache noire, ça c'est la disparition de Pirama Touré. Parce que pour pouvoir vivre en homme libre, il faut une presse libre, il faut une presse indépendante. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu les événements du 26 mars 1991.
Moustaphe Maïga, vous êtes avec nous depuis Ségou. La situation à Bamako est-elle différente de celle de Ségou?
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pratiquement, c'est la même chose. Ce que les Maliens de l'intérieur vivent, c'est ce que les Maliens de Bamako aussi vivent. Et au niveau de la presse au Mali, c'est la généralité. Et s'il faut répondre directement à votre question, moi je dis que la presse au Mali est trop libre, il y a trop d'excès, et l'excès de tout est nuisible. Tout le monde est devenu journaliste, surtout avec les réseaux sociaux qui se sont amélorés.
D'accord. Lui, il pense que le secteur, la presse malienne, est trop libre. Et vous, vous pensez qu'elle n'est pas libre, Makan Kone?
Non, trop libre. Peut-être qu'il parle des dérives. Des dérives qu'on constate, pas qu'au Mali, hein, on constate partout. Les réseaux sociaux, c'est pas qu'au Mali, c'est partout au monde. Maintenant, quand on dit presse libre, libre, est-ce que le journaliste aujourd'hui, il peut se lever le matin, aller tranquillement à son travail, aller recueillir les informations, venir les exploiter sans aucune crainte? Est-ce que tous les journalistes au Mali, au sein de leur rédaction, sont tous les jours sûrs qu'ils peuvent écrire des informations vérifiées, vérifiables et contre le pouvoir et contre l'opposition?
En respectant la charte.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire en respectant toutes les règles en matière d'éthique et de déontologie. Est-ce que, c'est la question qu'il faut se poser, moi, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les journalistes maliens se lèvent le matin, vont dans leur rédaction, vont d'abord chercher les informations, écrivent carrément, exploitent leurs éléments sans aucune crainte, sans se dire... Est-ce que si j'écris sur le pouvoir, sur l'opposition, sur l'armée, sur la crise au Nord, est-ce qu'il n'y aura pas d'inquiétude à me faire, comme c'est le cas dans certains pays qui aujourd'hui sont vraiment des pays démocratiques? J'ai pris l'exemple du Burkina qui est premier en Afrique francophone. Le Burkina, c'est un pays que je respecte bien le confrère burkinabé, mais aujourd'hui, en principe, si la presse malienne était véritablement libre, si les autorités aidaient la presse malienne à être libre, si les journalistes eux-mêmes revendiquait, se battait pour cette liberté, le Burkina ne doit pas nous damer le pion en termes de classement, en termes de liberté de la presse aujourd'hui.
D'accord. Moustaphe Maïga, quand vous dites que la presse malienne est trop libre, êtes-vous en train de parler de l'exercice des fonctions ou est-ce que vous êtes en train de parler du secteur qui n'est pas régulé?
Oui, je comprends ce que mon confrère Makan dit, c'est dans l'exercice de la fonction. C'est vrai que dans la pratique, on note parfois des pressions, on note quelques intimidations, des harcèlements, des menaces, comme Makan est en train de le dire. Mais quand je parle de liberté de la presse, c'est ce qui est permis. D'abord, sur le plan des textes, la constitution du Mali et d'autres lois qui garantissent vraiment et d'autres lois garantissent vraiment la liberté d'expression. Le Mali a adhéré à différentes conventions régionales et internationales et tout cela aussi est traduit dans les faits concrets aujourd'hui au Mali. Je prends l'exemple seulement, M. Touré, au terme de la loi sur la presse, pour créer un journal au Mali, on n'a pas besoin d'autorisation. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays, peut-être même le Burkina, je ne connais pas pour le Burkina. Mais au Mali, aujourd'hui, pour créer un journal, on se lève, comme Makan l'a dit, un matin, et puis on crée son journal. On n'a pas besoin d'autorisation. C'est le régime uniquement de la déclaration qui prévaut.
Le journal, vous parlez de la presse écrite, la presse en ligne?
Oui, je viens. Je parle d'abord de la presse écrite. Mm. Pour créer un journal, on n'a pas besoin d'autorisation. C'est la déclaration qu'il faut. Implicitement, c'est la même chose pour les journaux en ligne, pour les blogueurs. C'est peut-être seulement au niveau des organes audiovisuels où il est soumis, n'est-ce pas, une autorisation préalable. Donc, on peut dire que le public a droit quand même libre accès aux médias nationaux. Mais je suis d'accord avec Makan que même dans l'exercice de la fonction, c'est difficile. C'est difficile. Et là, tout dépend du journaliste. Les intimidations, les harcèlements, les menaces, je crois que dans toutes les corporations, souvent, on en a. Au niveau de la justice, il y a de la pression. Mais tout dépend de la conscience du journaliste ou du juge dans l'exercice de sa fonction. Mais à la décharge de Makan, pour un peu charger l'administration, c'est le fait qu'il y a des lois qui régissent une bonne relation entre l'administration et les usagers des services publics. Cela s'énonce, par exemple, par rapport
Monsieur Maïga, vous avez parlé de la presse en ligne et de la presse écrite. Les radios et les télévisions, est-ce qu'elles se créent également comme ça?
Non, j'avais dit déjà tantôt que c'est au niveau des organes audiovisuels que la déclaration est soumise préalablement. Elle n'est pas comme le cas des journaux et des journaux en ligne ou de la presse écrite. Donc, au niveau des radios, au niveau des télévisions, ce n'est pas la même chose. Mais au niveau de la presse écrite, au niveau de la presse en ligne, vraiment, il n'y a pas de problème au terme de la loi pour créer son média. Donc, je voulais continuer un peu en disant que là où il y a peut-être aussi un problème, c'est l'accès. Malgré toutes ces facilités que les lois donnent aux journalistes, il y a un autre problème, c'est l'accès aux documents administratifs. C'est une obligation quand le journaliste va dans une administration pour chercher l'information, c'est une obligation à cette administration de la donner, sauf si c'est sous le couvert du secret confidentiel.
D'accord, nous allons y revenir, monsieur Maïga. Alors, Badou Escoba, aujourd'hui, quel est votre avis sur cette question? Pourquoi existe-t-il des textes si toutefois les gens peuvent créer des journaux et des journaux, la presse écrite et la presse en ligne notamment, comme ils veulent?
Non, moi, je me dis que souvent, il faut adapter les textes aux réalités du moment. Comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, les journaux sont créés n'importe comment. Et n'importe qui, c'est du journaliste. Mais je pense qu'avec la nouvelle décision du ministère de l'économie numérique, peut-être les choses vont évoluer parce que désormais, il y aura une autre carte de presse. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais ajouter, c'est que le rang de le Mali aujourd'hui est 115e par rapport à la liberté de la presse. Moi, je conteste ce rang. Je me dis que ils ont exagéré.
Ça, c'est en 2017. On dit qu'en 2016, le Mali occupait la 116e place.
Oui. Le Mali a gagné une place. Moi, je pense que le Mali, la presse malienne est libre par rapport à certains pays. Parce que récemment, j'ai suivi les actualités en Tanzanie. Le président tanzanien John Magufuli a fermé une vingtaine de stations radio, 5 stations de télé. 20 journaux ont été suspendus. Et il a dit aux journalistes, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aller vous plaindre auprès de vos parents. Parce que ces journaux, ces moyens audiovisuels ont tout simplement critiqué le président de la République.
La Tanzanie est-elle en avance par rapport au Mali?
Je pense bien. Et récemment, en République tchèque, un journaliste a également été tué. C'est vrai, au Mali, il y a eu la disparition de Burama Touré, qui est une tache noire. Il y a 3 journalistes d'Acti Abdo qui ont été enlevés. Il y a Alima Ben Touré qui a été agressé. Il y a Douba Dembélé qui a été également agressé. Mais moi, je pense que malgré tout...
Par qui?
Bon... Pour le cas de Douba Dembélé, on cite la garde rapprochée du président de la République. Mais moi, je pense qu'en dépit de tout ça, vraiment, il y a eu des avancées significatives. Donc, et par exemple, la nouvelle carte de presse. Ça, c'est une avancée significative. Ça veut dire
que ce n'est qu'une carte.
Ce n'est qu'une carte, mais il y a des critères pour avoir la nouvelle carte de presse. D'accord. Donc, des critères ont été établis. Donc, si vous ne respectez pas ces critères, vous n'avez pas droit à la nouvelle carte de presse. Et un autre aspect qui va peut-être innover la presse malienne, ça, c'est l'école supérieure de journalisme qui a été récemment créée. Donc, ça, c'est des innovations qui peuvent, à l'avenir, faire en sorte que la presse malienne soit une presse plus libre, une presse plus indépendante, une presse qui sera enviée par les autres pays. En matière de démocratie, il faut reconnaître que dans la sous-région, le Mali est champion. Le Mali a été pratiquement l'élément déclencheur du processus démocratique en Afrique de l'Ouest. Donc, que le Mali ait un tel rang, moi, je pense que la sanction a été trop sévère. Le Mali méritait mieux que la 115e place.
D'accord. Makampone, les textes, que disent les textes et les lois?
J'ai oublié de dire bonjour. Si vous permettez, bonjour à mon excellent confrère depuis Ségou, Moustapha Mega, qui est un bon frère à moi. En fait, le problème, c'est les textes en réalité qui ne sont pas appliqués ou qui n'existent même pas en matière de dans le cadre de notre profession aujourd'hui. C'est vrai qu'il est dit que pour être journaliste au Mali, il faut soit être diplômé d'une école de journalisme ou soit être diplômé d'une école supérieure avec une expérience d'une année dans un organe. C'est très clair. Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'il y a des journalistes qui ont des organes de presse qui n'ont pas le baccalauréat au Mali. Ça existe. Les autorités le savent. Maintenant, les textes sont là. Qui doit les appliquer? Maintenant,
pourquoi ne réagissent-elles pas?
Les autorités?
Vous dites que les autorités
excusez-moi, mais les désordres-là les arrangent un peu. C'est ça la vérité. Ça leur permet de contrôler des gens et de faire leur affaire avec certains et tout, quoi. C'est ça la vérité.
De rendre la presse plus dépendante.
Plus dépendante, c'est ça la vérité. C'est-à-dire même les conditions dans lesquelles nous exerçons, c'est ça. Si moi, j'ai été président de la Maison de la Presse 7 ans. Je sais dans quelles conditions les journalistes exercent.
Justement, qu'est-ce que la Maison de la Presse a fait pour réguler ce secteur?
La Maison de la Presse n'a aucune autorité pour réguler le secteur. Ce n'est pas le rôle de la Maison de la Presse. La Maison de la Presse est à l'origine un centre de formation et de perfectionnement, un point, c'est tout.
Donc, pour professionnaliser la presse.
C'est tout, c'est-à-dire qu'avec des partenaires, nous initions des séances de formation et tout. C'est nous-mêmes qui avons joué le rôle du syndicat et tout. Ce n'est pas le rôle de la Maison de la Presse.
Donc, le rôle de la Maison de la Presse, c'est de rendre professionnelle la presse.
La définition même, c'est-à-dire le terme sur lequel la Maison de la Presse a été créée, c'est centre de formation et de perfectionnement des journalistes.
Donc rendre professionnels les journalistes. Est-ce que les journalistes maliens sont professionnels aujourd'hui?
Oui, ça dépend des moyens dont la Maison de la Presse dispose pour les professionnaliser. On a besoin d'être encore plus professionnel. C'est vrai qu'on fait des efforts. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'excellents journalistes au Mali, il n'y a pas d'excellentes radios, il n'y a pas... la preuve, c'est vous-même, c'est le studio Tamani et tout. C'est des Maliens qui sont là, qui travaillent. Tout le monde est fier aujourd'hui de certains journalistes maliens, de certaines radios maliennes, de certaines nouvelles télévisions maliennes. Des journalistes maliens, il y en a
Mais est-ce que ce n'est pas ce manque de professionnalisme dénoncé par certains qui est également un frein contre la liberté de la presse?
Non, pas exactement. Ce que je veux dire, l'exercice de la profession, elle se fait dans le cadre de textes bien déterminés. Maintenant, les gens qui doivent veiller sur l'application de ces textes, c'est l'État. C'est l'État qui doit mettre des garde-fous, normalement. C'est l'État qui doit empêcher à ce qu'il y ait certaines dérives. Mais on a assisté à des dérives ici, mais l'État n'a rien fait. Mais parfois, pour moins que rien, on attaque des journalistes, encore maintenant, ça va. Non, pour répondre un peu, pour essayer d'expliquer un peu le rang de que Badou, que mon frère ne comprend pas bien. En fait, ce qui se passe, c'est que Reporters sans frontières envoie des questionnaires aux structures, aux associations fêtières et tout. Les questions sont précises par rapport à la défense de la liberté, à l'exercice C'est en fonction de ces réponses que le pays est classé. Donc aujourd'hui, tout le monde est sûr qu'il y a une grosse tâche sur la tête, comme sur la tête de l'État malien, c'est le dossier Birama Touré. Là, c'est en fonction de ce qui s'est passé l'année dernière. Jusqu'aujourd'hui, ce dossier, il n'est pas, on n'en sait rien. Est-ce qu'il a disparu, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est quoi? Donc les gens aujourd'hui, c'est, et puis toi, lui, il a cité, permets-moi, il a cité plus de 4 journalistes qui ont été agressés en l'espace de 3 mois, 2 à 3 mois. Et c'était la période même où le classement s'effectuait. Donc c'est un peu ça, en fait. Je crois que c'est pas... Et puis, mieux que ça, compte tenu de tout l'espoir que les gens ont fondé sur la démocratie malienne, sur les libertés, l'exercice des libertés au Mali, la moindre petite dérive est sanctionnée. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'il y a un tel recul au Mali. Donc je crois que tout ça explique un peu notre...
D'accord. Moustapha Maïga, alors aujourd'hui, est-ce que le professionnalisme n'est pas également... Le manque de professionnalisme dénoncé par certains n'est pas également un frein à la liberté de la presse au Mali?
Oui, justement. C'est pourquoi je puis un peu expliquer à mon confrère Badou que l'un des critères de Reporters sans frontières par rapport à leur classement annuel, l'un de leurs critères, c'est aussi le contenu des journaux, des radios, de la presse, en quelque sorte. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'est pas étonnant que le Burkina Faso soit devant nous. Tout le monde sait que la presse du Burkina, en termes de contenu, est en avance sur celle du Mali.
D'accord. Donc, nous avons parlé de la responsabilité des autorités, mais également celle des responsables de ces presses et des journalistes, également certains qui affichent réellement des positions en défendant une partie ou une autre. Est-ce que cela doit se faire?
Tout à fait. C'est ça. C'est ça. La presse malienne est confrontée en son sein à beaucoup d'obstacles.
Notamment?
C'est les conflits d'intérêts. C'est le manque de solidarité entre les associations professionnelles. C'est le manque d'organisation.
Certains pensent également que c'est dû au fait que la plupart de ces organes appartiennent à des hommes politiques.
Mais tout le monde le sait. 90% des organes de presse en matière de radio, en matière de journaux, appartiennent à des mécènes, à des hommes politiques. En tous les cas, les journaux ne sont pas, ou les radios ne sont pas indépendantes vis-à-vis de ces pouvoirs en question.
D'accord. Badou Escoba, est-ce que vous pensez que la précarité, que dénoncent certains également, est une des causes?
Non, la précarité est une des causes. Je crois que l'ancien président de la Maison de la Presse est là. À un moment donné, on avait signé ce qu'on appelle la convention collective. Et avec cette convention collective, on devait, en principe, payer les reporters. Mais cette convention collective n'a pas été appliquée.
Elle peine à s'appliquer.
Aujourd'hui, quel est le problème fondamental? Il y a des organes de presse. Maintenant, les organes qui ne sont pas avec le pouvoir, ces organes, n'est-ce pas, ne bénéficient pas des contrats médias, etc., etc. Nous sommes confrontés à ces problèmes. Donc, les journaux qui disent, entre guillemets, la vérité, c'est des journaux qui sont embâtillés, c'est des journaux qui sont lésés. Donc, il y a ce problème qui se pose. Parce que pour avoir une presse responsable...
Justement, M. Koba, oui. Les journaux maliens vivent de quoi aujourd'hui?
Mais les journaux maliens vivent de contrats médias. Bon, au-delà de ça...
Des contrats avec des sociétés, avec des hommes sociétés, politiques et autres.
Etc.
Est-ce que ça ne joue pas sur l'indépendance, le professionnalisme de ces médias?
Justement, ça joue sur le professionnalisme des médias. À un moment donné, on avait proposé à ce que les organes aillent vers des entreprises de presse pour avoir plus de force. Et en ce moment, ils pourront dire un certain nombre de vérités. Mais quand vous vivez dans une certaine précarité, vous êtes à la merci des contrats médias, vous allez pouvoir difficilement dire la vérité. C'est ça le problème fondamental qui se pose aujourd'hui. Pour qu'il y ait une presse libre, une presse responsable, il faut que la presse, il faut que les journalistes soient à l'abri du besoin.
D'accord. Makankouné, certains pensent qu'une presse qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins doit juste fermer ses portes.
Oui. Normalement, on ne doit pas créer un organe de presse qu'on peut pas, si on ne peut pas l'entretenir, payer ses journalistes et tout, on peut pas, on doit
ce
pas.
Ce qui est voir. Très fréquent selon certains.
Absolument. Ça aussi, c'est la faute à l'État. Moi, c'est pas, je ne joue pas au corporatisme comme ça, mais en réalité.
Vous accusez l'État, mais quel est le rôle, quelle est la responsabilité des journalistes?
La responsabilité des journalistes, déjà, nous, c'est que nous nous sommes organisés. C'est la maison, c'est les journalistes qui sont organisés en maison de la presse pour aller voir l'État et dire à l'État que vous êtes obligé de soutenir cette... C'est pas qu'au Mali, c'est partout au monde. Et puis le pays, la presse qui est la moins aidée d'ailleurs, c'est la presse malienne. Or, on aide la...
Donc l'aide à la presse.
L'aide à la presse, l'aide à la presse, c'est pas... Les gens pensent que c'est un cadeau que l'État fait. Là. C'est fou. C'est dit que c'est d'abord c'est l'argent du contribuable. C'est ton argent, c'est l'argent du CDN, c'est mon argent. C'est l'impôt des Maliens qui est redistribué aux journalistes parce qu'ils ont un rôle de service public.
Justement, c'est l'argent du contribuable. Mm-hmm. Est-ce que les médias maliens rendent le service public?
Ah, bien sûr. Normalement,
est-ce que c'est le citoyen lambda qui est vu?
C'est comme ça que ça doit se passer.
Comme cible.
Mais en fait, c'est vrai que dans le cadre de la distribution de cette manne, les critères ne sont. On ferme un peu les yeux sur les critères. Mm-hmm. C'est ça le problème, en fait. Tout ça, c'est l'État qui a la force, en fait. L'État doit. La force, entre guillemets, ce n'est pas la force. C'est l'État qui doit aider les associations à faire appliquer ces critères. Parce que, dans l'application de ces critères, le ministère est membre. Le ministère doit avoir des yeux sur comment cette manne est distribuée, comment c'est fait. Maintenant, pour répondre un peu dans le même sens que par rapport à la collectivité,
à la convention
collective, mm-hmm. Ça, moi, quand elle s'est signée, j'étais présent dans la maison de la presse. L'État était représenté par le ministre Abdoulaye Berthé, ministre du Travail. Donc l'État a signé cette convention collective. L'État avait promis de s'engager jusqu'à un certain montant. L'État n'a jamais déboursé un seul sou pour que cette convention soit appliquée. Il faut que l'État, c'est l'État qui doit aider à l'application de cette convention. Sinon, les professionnels, en réalité, ont joué leur rôle. Hein. Fait Ibrahim Famagan, qui était le président de l'Union, paix à son âme, s'est battu. On a fait.
D'accord, nous avons deux autres sujets à aborder. Alors aujourd'hui, 30 secondes pour chaque invité. Quelle est la solution pour que la presse malienne puisse être professionnelle et libre aujourd'hui?
Moi, je crois qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la formation et sur l'accès à la profession. Tout le monde ne peut pas être journaliste, tout le monde ne peut pas créer une radio, tout le monde ne peut pas créer un journal. Comme Moustapha l'a dit, n'importe qui peut. Même cette déclaration, elle n'est pas obligatoire. Hein. Certains, il y a des journaux ici qui. On doit déposer copie légale chez le procureur et tout. Il y a des journaux qui ne font pas ça.
Et qui doit faire ça?
C'est le directeur du journal.
Non, réguler le secteur, comme vous le demandez, et rendre professionnel.
C'est l'État et la profession, bien sûr. C'est comme on dit à Bambara, Kuntiko.
Moustapha Maïga, avez-vous une autre solution à proposer?
Oui, je suis totalement, entièrement d'accord avec Makan Kone. Ce que l'État donne par la main droite, l'État retire par la main gauche. L'État crée toutes les conditions sur papier pour que la presse soit entièrement libre, mais l'État ne fait rien pour que l'application de ces textes soit effective. C'est ça le problème. Donc il faut que, pour répondre à votre question, il faut que l'État crée un environnement économique très favorable à la presse, il faut que l'État crée les conditions pour la formation, il faut que l'État applique les textes, parce que c'est ça le problème.
D'accord, Balou Escobar, à vous.
Entre nous, communicateurs, journalistes, il faut aussi une bonne autorégulation.
D'accord, Balou Escobar, une solution.
Moi, je pense que j'embouche dans la même trompette que mes deux confrères pour dire que n'importe qui ne peut pas être journaliste, n'est pas journaliste qui le veut. On ne peut pas se lever en plein jour et dire que je suis journaliste. Moi, j'ai l'habitude de voir la carte de presse avec des vendeurs de pain. La carte de presse maison, ce n'est pas normal. Et l'autre aspect, il faut que l'État indexe désormais.
Les vendeurs de pain, oui, la carte de presse.
La carte de presse maison avec des vendeurs de pain.
Ils font quoi avec ça?
Je ne sais pas. Ils montrent ça pour dire qu'ils sont journalistes. Un vendeur de pain, depuis quand il est journaliste?
Alors là.
Et au-delà de ça, il faut qu'on indexe l'aide à la presse sur le budget d'État. Il faut augmenter sur l'aide à la presse. Il faut mettre les journalistes à l'abri du besoin. Souvent, les journalistes, on les voit, on dirait des bandes de familles, que ce n'est pas normal. Et cette situation arrange l'État. Et il faut que l'État soit équitable entre tous les organes.
D'accord, ça, n'est pas journaliste.
C'est pas parce que vous critiquez l'État que l'État ne doit pas vous donner des contrats. Ça,
d'accord,
c'est pas normal.
D'accord, M. Koba n'est pas journaliste qui le veut, mais est journaliste qui le peut, selon vous. Et c'est le deuxième sujet que nous allons aborder tout de suite. Les exécutions de civils se poursuivent dans la région de Ménaka. Plus de 40 morts ces derniers jours. Moustapha Maïga, on a l'impression que ces meurtres passent inaperçus aujourd'hui.
Oui, je crois que pour ne pas être trop cynique, ça passe presque inaperçu et surtout que ça ne s'est pas fait en un jour, c'est en trois jours, le 26 avril, le 27 avril et le 1er mai, c'est 12 femmes et enfants, c'est 30 un civil, c'est 17 autres, donc une soixantaine. Et c'est très dangereux. Donc, il y a vraiment un manque de réaction qui n'est pas visible au niveau de l'État par rapport à cette théorie qui est quand même une première dans cette partie du pays.
Badou Escoba, considérez-vous cette situation comme un manque de réaction, comme le pense M. Maïga?
Non, moi je pense que c'est la guerre communautaire qui est en train de se propager dans le corps physique du Mali. Ce qui s'est passé dans la région de Ménaka, on parle d'affrontement entre Peul et Daoussac. C'est quelque chose qui est très dangereux. Et ce que moi je ne parviens pas à comprendre, que Barkhane s'associe à deux milices d'autodéfense pour combattre le terrorisme, moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Barkhane doit plutôt s'associer aux armées du Mali, à la MINUSMA, aux armées du Niger, etc., ou bien à la force du G5 Sahel pour combattre ces terroristes. Et c'est ce qui a créé la
Ne peut-elle pas collaborer avec ces groupes?
Si Barkhane doit collaborer avec ces groupes, Barkhane doit être équitable. Parce que la plupart des massacres ont été perpétrés par ce qu'on appelle le groupe État islamique au Sahel et au Sahara, qui est en majorité composé de Peuls. Donc pour les Peuls, et Barkhane, MCA, Gacha, n'est-ce pas, est en train de combattre, de les combattre. Donc, en représailles, ils se sont attaqués au campement d'Ossak. Et on parle de 55 morts. Le gouverneur de la région de Ménaka, Daouda Meïga, même l'a dit que c'est des civils qui ont été tués et que ça risque. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame pour ne pas remettre en cause, n'est-ce pas, l'accord d'Alger qui a été signé. Et le chef de la force Barkhane, Bruno Guibert, le colonel, le général Bruno Guibert a dit la même chose. Donc faisons attention, nous sommes là pour combattre le terrorisme. Mais leur façon de combattre le terrorisme, franchement, ne me convient pas.
Responsable situation, alors Moustapha Maïga pense que l'État ne joue pas réellement son rôle. Et Badou Escoba interpelle Barkhane. Makankonati, quel est votre avis?
Makankoni. Non, moi je crois qu'il faut qu'on arrête de jouer avec le feu. Ce qui se passe dans notre pays... Et pas qu'au centre, pas qu'à... C'est au-delà de Ménaka, en réalité, aujourd'hui, on assiste à des choses auxquelles on ne peut même pas penser au Mali. C'est-à-dire des communautés qui s'affrontent, qui se tuent, qui... Tout le monde a une arme chez lui. Et puis, dans des zones aussi reculées que Ménaka et tout, chacun s'arrange à être armé. Les gens se lèvent, ils s'entretuent, l'État est là, tranquille. Et par exemple, cette tuerie, c'est très grave, comparativement surtout à la réaction de l'État. On n'a pas senti du tout l'État. Et c'est pas bon. C'est extrêmement dangereux, c'est à condamner. C'est comme à la limite des Maliens qui s'entretuent. C'est des Maliens qu'on a assassinés, qu'on a exécutés, tout sommairement, je dirais. Et ça, il faut le dénoncer de la manière la plus ferme et tout, quoi. Ça, il faut que ce soit des choses qui s'arrêtent
certains
définitivement.
Certains observateurs pensent que ces attaques et ces meurtres sont devenus comme une série, comme
absolument.
Un film Spartacus qu'on regarde et puis c'est fini.
Ouais, pour reprendre un autre confrère qui a dit à un moment que tout ça devient à la limite sympathique et tout et tout. En fait, les gens n'ont pas aussi compris le terme de ce qu'il voulait dire. Mais c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des tueries sans aimer personne à la limite, quoi. Ouais, nous, on a fait notre enfance au Nord, mais ce n'est pas possible. Des gens qui se tuent comme ce n'est plus le même Nord, c'est comme si ce n'est plus le même pays. Et ça, l'État est entièrement responsable de cela. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est qu'apparemment, on a l'impression que Barkhane n'a tiré aucune leçon du séjour de Serval. C'est comme s'il reprenait un peu ce que Serval a fait avec le MNLA par rapport à Kidal. C'est à ça qu'on assiste un peu à Ménaka. Parce que Serval a refusé à ce que l'armée malienne n'entre à Kidal. Et ils ont carrément recruté des jeunes du MNLA. On a suivi des interventions sur la télévision pour qu'ils les aident à combattre les terroristes. Barkhane est en train aussi de faire avec le MSA et Gacha. Et ils ont carrément l'armée malienne, comme l'a dit Koba. C'est pas normal, c'est notre territoire, c'est le Mali. Il y a un gouverneur à Kidal, on peut à la limite comprendre un peu. Mais Ménaka, c'est inadmissible. Il y a un gouverneur, il y a l'administration et tout. Il y a l'armée malienne à Kidal. Pourquoi Barkhane travaille avec les MSA et Gacha et tout? Sans oublier que depuis une semaine, on a senti cette campagne médiatique autour du responsable du MSA, qui est un jeune frère, Moussa Charatman, sur les plateaux français, dans les plus grands journaux, entre guillemets, européens et tout. Qu'est-ce qui explique tout ça? Tout ça, c'est des coïncidences.
Mais vous dites que l'armée malienne est ignorée par ses forces étrangères.
Absolument.
Mais est-ce que l'armée malienne, les autorités maliennes ont voulu que l'armée également soit impliquée, réellement impliquée?
Mais bien sûr, c'est ce qu'on entend. Hein, c'est ça le discours officiel, de toute façon. Nous, on n'est pas comme dans les secrets de Dieu, on n'est pas dans les couloirs du pouvoir. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le gouvernement les entend. Ils estiment qu'on parle, le terme aujourd'hui à la mode, c'est la montée en puissance des femmes. S'ils montent en puissance, ben, qu'ils montent en puissance à Menaka, et qu'ils affichent cette montée en puissance à Barkhane.
Donc vous voulez dire que cette montée en puissance affirmée par les autorités reste des mots?
Comparativement au comportement, en tout cas, de Barkhane et de nos partenaires, on ne voit pas notre armée monter en puissance. Parce que si elle est on est fils de militaires également. Donc quand l'armée monte en puissance, on la voit, on sent l'armée malienne, la Kida, la Menaka et tout. En fait, Barkhane ne peut pas, quelle que soit la puissance de la France, elle ne peut pas s'exprimer d'une certaine manière si l'État malien, si l'armée malienne est présente. Il faut que l'armée malienne soit présente. Personne ne peut faire cette guerre, personne ne peut résoudre cette crise à la place des Maliens.
Ça, d'accord. Moustapha Maïga, au centre du Mali, vous y êtes à Ségou. Comment les populations vivent-elles cette situation?
Bon, je crois que c'est toujours l'affaire au ventre que ces populations vivent, même celles qui ne sont pas concernées. Sinon, la région de Ségou, c'est au niveau du cercle de Massina, au niveau du cercle de Nyono, que les activités des terroristes sont visibles. Et il y a de la crainte, parce que quand vous parlez de Massina, vous parlez de Nyono, c'est quand même la zone office du Niger, c'est quand même plus de 5 000 à 10 000 hectares qui sont dans les zones où les terroristes sévissent. C'est aussi l'insécurité alimentaire qui peut être en vue. Donc, c'est la peur au ventre et c'est problématique.
D'accord. Vous avez parlé de quelque chose, M. Maïga. Une attaque au nord, une attaque au centre, une attaque au sud. Est-ce que ça intéresse tous les Maliens? Est-ce que tous les Maliens, ça les inquiète?
Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème depuis 2012, avec la crise du nord. Je n'attaque personne, mais certains Maliens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, ça se passe au nord, ce n'est pas notre problème, et comme je l'ai dit, ça n'arrive qu'aux autres. Certains Maliens le pensaient ainsi. Mais aujourd'hui, la crise, elle est générale. Ça peut arriver partout. C'est arrivé à Bamako, avec des terroristes, d'ailleurs. C'est arrivé au centre du pays, au nord. Donc, il faudrait que les Maliens prennent conscience que nous sommes face à un terrorisme, et le terrorisme, ça se combat à travers une unité. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec le régime que nous vivons.
Badou Escoba, le citoyen lambda malien, se sent-il citoyen de sa zone, de son village, sa région, ou citoyen du pays entier, du Mali?
Non, il y a un problème réel qui se pose aujourd'hui au centre et au nord. Les gens sont en train de se déplacer, comme il l'a si bien dit. Ça joue sur le facteur économique. Parce qu'il faut cultiver, il faut entretenir les troupeaux. À l'époque, entre les Peuls et les Dogons, c'était la parfaite harmonie. Ils vivaient en parfaite symbiose. Il y avait un système de troc, n'est-ce pas?
Et donc, ça, c'est les conséquences. Mais aujourd'hui, quand on demande l'implication des populations dans la lutte contre l'insécurité, est-ce qu'une situation qui se passe au nord du pays intéresse quelqu'un qui se trouve à Sikasso, par exemple?
Non, forcément, ça l'intéresse parce que Sikasso, c'est le Mali. Et la chose est en train de s'aggraver. Qui pouvait imaginer qu'un Menaka qui est des tueries d'une telle ampleur? Parce que la chose a été négligée dès le départ par l'État. Parce que l'État a sous-traité sa sécurité, il faut le reconnaître. L'État a voulu s'appuyer sur les milices. Ce qui s'est passé à Koro. Des gens ont dit que des gendarmes ont donné leurs armes à des milices d'autres défenses d'Ogo pour pouvoir se défendre. Donc ça, il faut arrêter avec ce genre de pratique.
L'État ne s'est pas impliqué. Qui s'est impliqué? Est-ce que la société civile s'est impliquée? Est-ce que les autres acteurs
se sont impliqués? La société civile s'implique. La société civile est en train de s'impliquer. Il y a l'association Djina d'Ogo, Tabitha Poulakou. Et récemment, ils se sont déplacés, ils sont partis au centre, ils ont mené des campagnes pour
pourtant,
sensibiliser
les populations. Que les responsables de ces différentes organisations ont un rôle à jouer dans ce processus.
Mais ils sont en train de jouer leur rôle.
Et récemment, ils sont responsables également de cette situation.
Bon, c'est ce que les gens disent, je n'ai pas de preuves. Mais récemment, le ministre de l'Éducation, il est parti dans la zone. Mais il s'est interposé entre des groupes qui ont failli s'entretuer. Mais quand il les a sensibilisés, ils ont compris qu'ils sont sortis des mêmes entrailles. Ils ont compris qu'ils sont tous maliens. Il faut des sensibilisations de ces gens. Il ne faut pas dormir à Bamako dans les hôtels luxe et faire des déclarations tapageuses.
Alors,
il faut
aller sur le terrain. À quand la fin de cette situation?
Non. C'est quand la fin de cette insécurité?
Cette insécurité, moi, je suis optimiste. Il y a des raisons d'espérer. Mais il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État joue son rôle régalien, qui est de défendre les personnes et leurs biens.
Vous avez espoir pour un jour ou espoir pour bientôt?
J'ai espoir pour bientôt. Si l'État joue réellement son rôle,
avez-vous espoir, Makankone, aussi pour bientôt?
Non, pas pour bientôt, honnêtement. Pas pour bientôt. Vous savez, ceci, on a laissé pourrir la situation. S'il n'y a pas d'État, les gens jouent le rôle de l'État. C'est simplement ce qui se passe. Même à la limite au nord, hein, dès que l'État recule, comme on dit, la nature arrête de vivre. Il y a un chef qui est là, si le chef se déplace, il y a un sous-chef qui vient prendre sa place. Vous avez vu, à Mopti, par exemple, on a enlevé un juge qui avait des problèmes avec un citoyen et tout. Un maire, mm-hmm. qui devait de l'argent à quelqu'un, on l'a amené, on l'a jugé, le maire on l'a jugé, il a payé de l'argent, on l'a libéré.
Une catastrophe.
En fait, vous savez, on dit que l'injustice est le lit de l'anarchie. Ce pays, je crois fondamentalement, le problème c'est ça aujourd'hui. Partout où il y a une crise dans ce pays, vous allez sentir, en tout cas vous découvrirez de l'injustice quelque part. Il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État joue véritablement son rôle. Il faut que l'État soit présent sur toute l'étendue du territoire national. Et il faut qu'on arrête l'injustice. Il faut qu'on arrête de brimer les gens. C'est pas que c'est l'État qui brime, mais c'est les agents de l'État qui briment. Il y a des agents de l'État dans certains coins reculés qui sont dieux sur terre, qui font ce qu'ils veulent. Et les populations en ont eu marre à un moment donné. Les gens se sont soulevés.
D'accord. Badou Escoba pense que la situation sécuritaire sera tranquille bientôt et Makankone pense que ce n'est pas pour bientôt. Vous, Moustapha Maïga, quel est votre avis là-dessus?
Bon, je ne suis pas un devin, mais je peux juste proposer des pistes. Je me dis, le terrorisme, c'est un fléau moderne. C'est un fléau comme on l'a vu avec Ebola, comme avec le sida. Mais aujourd'hui, le régime seul...
N'est-ce pas plus compliqué qu'Ebola, puisqu'on connaît le vaccin, on connaît beaucoup de solutions par rapport à Ebola, mais aujourd'hui, est-ce qu'on connaît la solution face à la lutte contre le terrorisme?
Oui, si on n'a pas la solution immédiate, il s'agit pour les Maliens de se rassembler. Et pour se rassembler, il faut que les autorités le comprennent. Il faut un rassemblement. On a vu le cas avec les attentats de Charlie en France.
D'accord. Ce qui va nous permettre, M. Maïga, d'aborder avec vous directement le troisième sujet de ce grand dialogue, qui est les élections. Dans ces conditions, est-ce que les élections pourront se tenir?
Vous me posez la question à vous, le premier?
À vous, oui.
Bon, difficile aujourd'hui. De dire que les élections peuvent se tenir le 29 juillet. Difficile. D'abord, au moment où on parle, il n'y a pas de carte d'électeur. Au moment où on parle, on ne sait pas si on va voter avec les cartes NINA ou avec les cartes d'électeurs qui seront confectionnées. Au moment où on parle, sur les 703 communes, on peut dire que l'histoire nous a démontré, parce que avec les élections communales, on ne peut pas dire qu'on peut organiser des élections dans au moins un tiers de ces 703 communes. Donc, pratiquement...
À vous entendre parler, M. Maïga, rien n'est fait.
Au moment où je parle, au moment où nous parlons, c'est une évidence. Il n'y a pas de support pour voter. Le premier support, c'est les cartes d'électeurs.
Les autorités plus, rassurent que pas. Les cartes d'électeurs, nous les aurons bientôt.
Je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais quand même que nous sommes à 2 ou 3 mois des élections, on n'a pas de carte d'électeur. Ensuite, on ne sait même pas si on doit voter avec la carte NINA ou si on doit voter avec la carte d'électeur.
D'accord, donc vous n'êtes déjà pas sûr que les élections se tiendront le 29 juillet. Badou Escoba, êtes-vous sûr que les élections se tiendront?
Oui, mais ce sont des préalables sur lesquels...
D'accord, vous aurez la parole tout de suite, M. Maïga. Badou Escoba, êtes-vous sûr que les élections se tiendront?
Je me demande par quelle baguette magique l'État va pouvoir organiser les élections le 29 juillet. C'est vrai, la force du G5 Sahel à travers l'opération Foronto est en train de monter en puissance. On dit que l'armée nationale monte en puissance, la MINUSMA, il y a les forces internes, etc., etc. Mais ça m'étonnerait qu'un sous-préfet puisse aller s'installer dans ces conditions et dire qu'il va superviser les élections.
Donc à cause de la situation sécuritaire.
À cause de la situation sécuritaire. Le sous-préfet de Hombori a été enlevé il n'y a pas longtemps. Heureusement, il a pu sauver sa peau. Le sous-préfet de Onerden, Alassane Agal Toubéchi, a été égorgé chez lui. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut parler d'élection? Parce que pour pouvoir organiser une élection, on parle de carte d'électeur, mais il faut la sécurité. Il faut que les citoyens se mettent en tête que, bon, je vais aller voter en toute sécurité.
Et donc, ce sera plus compliqué de tenir les élections qu'en 2013.
Ce serait plus compliqué dans ce contexte.
Est-ce votre avis, Makankoni?
Moi, je crois qu'il faut que ces élections se tiennent.
Mais est-ce qu'elles se tiendront? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles vont pouvoir se tenir?
Moi, j'ai bon espoir que je souhaite qu'elles se tiennent. D'accord. Si elles ne se tenaient pas... On est carrément dans l'inconnu, quoi.
D'accord. Si elles se tiennent, est-ce qu'on peut s'attendre à des élections transparentes, crédibles, indépendantes, acceptées par tous?
C'est là où je voulais en venir.
Allez-y.
Moi, c'est pas la tenue ou non, c'est pas la tenue des élections qui m'inquiète, mais moi, c'est l'après-élection qui m'inquiète en réalité. Vu tout ce qui se passe, vu le retard qu'on a pris dans l'élection, dans l'organisation et tout, et vu toutes les inquiétudes, tout ce à quoi on nous prépare, moi, si d'abord, je crois que pour les cadres d'électeurs, l'imprimerie qui est chargée de leur confection, l'imprimerie nationale de France, a assuré que c'est vers le 10 juin et tout. Ils ont vraiment donné leur accord.
Bon, on dit que c'est même s'ils ont repoussé la date.
Voilà. Bon, mais on se dit que c'est quand même une entreprise sérieuse. Bon, entre guillemets, c'est la France. Je crois qu'ils vont pas nous faire un faux bon. Ils vont nous livrer les cartes d'électeurs. Maintenant, est-ce que les cartes d'électeurs pourront être suffisamment distribuées? Quels moyens on a pour dire à tout le monde, allez et retirez vos cartes d'électeurs et tout.
Les réfugiés, les personnes déplacées.
Les réfugiés, non, mais ils ne vont pas voter vraiment.
Ils ne vont pas voter?
Non, les réfugiés ne vont pas voter.
Vous pensez qu'ils ne vont pas voter aussi, M. Koba?
C'est difficile.
Difficilement, franchement.
Difficilement.
D'accord.
C'est qu'on va faire des élections à minima, une élection présidentielle à minima, mais il faut les...
Avec à peu près taux de participation de combien?
Bof, d'habitude déjà, le taux de participation ici, c'est les 15-20%. On est dans les 10.
Même en temps de crise.
Même en temps normal ici.
En 2013, il y a eu...
Bon, ça, c'est les chiffres officiels qu'on a donnés.
D'accord.
Mais je me dis, voilà, je me dis en tout cas que il faut que ces élections se tiennent, il faut qu'elles se tiennent bien, il faut que nos partenaires nous aident à les tenir et à faire en sorte que ces élections soient des plus transparentes. C'est clair. Et qu'on nous aide en tout cas à voter dans le plus grand nombre de... Disons, dans les plus grandes localités possibles.
Comment peut-on y parvenir?
Non, mais je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que cela, on ne peut pas. Nous n'avons ni les moyens humains, ni les moyens financiers à le faire.
Seul le Mali,
Seul le Mali ne peut pas le faire. Même en termes de sécurité, nous ne pourrons pas. Il faut donc qu'on aille vers... D'abord, que tout le monde se mette d'accord. Et Moussa va parler d'un truc que nous fuyons depuis 2012. C'est les concertations nationales. Peut-être qu'on...
Il y a eu la conférence d'entente nationale.
Non, oui, mais c'est pas la formule que les gens cherchent encore. Les gens veulent véritablement que nous venions dans une même salle, 2-3 jours, que tout le monde se lâche. C'est pas grave. C'est pour qu'on sorte...
Est-ce que tout le monde pourra se lâcher pendant 2 ou 3 jours?
Que ça prenne le temps que ça doit prendre. Mais je crois qu'on ne peut pas fuir ces débats-là. Ça, il faut qu'on se le dise. Hein. 10 ans après, 5 ans, on est obligé. Ouais, même cette crise au Nord, c'est que tout le monde... Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de s'exprimer. Il y a eu assez d'injustices, assez de brimades.
D'accord.
Les gens ont besoin de les...
Moustapha Maïga, est-ce que vous pensez également que seul le Mali ne pourra pas tenir ses élections et, bien sûr, les élections transparentes et acceptées par tous?
Les élections, si on suit la ligne directive quand même du gouvernement à travers le Premier ministre, c'est qu'elles vont se tenir.
Le 29 juillet.
Elles vont se tenir quelles que soient les conditions. Le 29 juillet. Maintenant.
Et quels que soient les résultats.
Oui, quelles que soient les conditions, à travers la fougue du Premier ministre, on sait qu'elles vont se tenir. Maintenant, seront-elles crédibles, transparentes? Comme avec tous ces préalables qui ne sont pas réunis et comme avec les contestations possibles qui vont se faire, c'est là quand même toute la question.
Badou Escoba, si les élections se tenaient le 29 juillet, peut-on s'attendre à un taux de participation élevé cette fois-ci?
Non, je pense que le taux de participation ne sera pas élevé comme en 2013. Mais il y a un élément fondamental que j'aimerais ajouter.
En 30 secondes.
Apparemment, l'État veut confier la sécurité de l'organisation du scrutin dans le Nord aux groupes armés. qu'il ne faut pas que l'État s'hasarde à le faire. Si l'État le fait...
Êtes-vous sûr que l'État veut le faire?
L'État a l'intention de le faire. Et si l'État le fait, les partis politiques de l'opposition... Non, mais il y a les forces internationales, il y a la MINUSMA, Barkhane, qui peuvent aider à superviser les élections. Sinon, si on laisse la sécurité du scrutin aux groupes armés, les partis politiques de l'opposition ne vont pas accepter le scrutin. Et je rejoins mes deux confrères pour dire qu'il faut impérativement organiser ces élections. Parce que un vide constitutionnel, ce n'est pas une bonne chose. 2012 n'est pas loin. La tragédie de 2012, nous avons tous vécu ça ici.
L'État malien a failli disparaître. Espérons que la paix, la réconciliation, des élections transparentes et crédibles, nous y parviendrons. Et c'est ce qui met fin à cette émission. Forum de la presse, nos invités Makan Kone du journal La Nouvelle Libération, Moustapha Maïga du journal Le Ségouvien, Badou Escoba du journal Le Carrefour étaient nos invités. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Salim Diouara, la régie vidéo Mamadi Keïta et Nouhoum Djiré. Je suis Mohamedou Touré, à vendredi prochain pour un nouveau numéro du Forum de la presse de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halou Dumandi.
Chienne Berry.